Un premier verset dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 2. Verset 17. C'est pourquoi il dut en toute chose être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a souffert lui-même, étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Chapitre 4. Verset 14. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Chapitre 9, verset 11. Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir. Chapitre 10. Verset 21, ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai. Le Nouveau Testament nous présente diverses activités du Seigneur Jésus actuellement dans le ciel. Et si nous lisons attentivement le Nouveau Testament, nous voyons qu'il a de multiples activités nous concernant à chacun individuellement. Il a aussi des activités qui nous concernent collectivement, c'est-à-dire l'Assemblée, par exemple, non seulement il l'aime, mais il la nourrit et il la chérit. Il la sanctifie. Donc, dans le Nouveau Testament, nous trouvons à la fois des activités du Seigneur Jésus dans le ciel qui nous concernent à chacun de nous, et aussi des activités du Seigneur Jésus qui nous concerne tous collectivement. Par exemple, la première activité que nous trouvons dans le Nouveau Testament et qui nous concerne, nous pouvons lire dans Jean 17. Jean 17. Au milieu du verset 2, à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. La première activité céleste de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous donner la vie éternelle. Quand nous croyons au Fils de Dieu, quand nous acceptons par la foi ce que signifie la croix, qu'il a été chargé de nos péchés, eh bien la première activité céleste de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous donner la vie éternelle. Il leur donne la vie éternelle. Une deuxième activité, nous la trouvons à la fin de l'évangile de Marc. Chapitre 16, le Seigneur, verset 19, « Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Les disciples avaient été envoyés vers les nations pour prêcher, pour prêcher le salut en Jésus-Christ. Et nous voyons que la deuxième activité céleste de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était qu'il coopérait avec eux quand il prêchait partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous avons à cœur de présenter l'Évangile dans le privé ou publiquement, eh bien nous voyons qu'une activité céleste de Jésus-Christ, c'est de coopérer avec nous et confirmant la parole. Ici, c'est par les signes qui l'accompagnaient. Et nous pouvons dire que si nous sommes dans la main du Seigneur, eh bien, si nous prêchons par l'Esprit et que nous avons à cœur le salut des âmes, eh bien, le Seigneur qui est dans le ciel coopère avec nous. C'est la deuxième activité que nous trouvons dans le Nouveau Testament qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous parlons souvent que Christ dans le ciel est dans le repos. Dans un sens, c'est vrai. Mais si nous examinons les Écritures, nous voyons que le Seigneur à de multiples activités célestes aujourd'hui en ce qui nous concerne et en ce qui concerne l'Assemblée de Dieu. Première activité, pour les racheter, il leur donne la vie éternelle. La deuxième activité, si nous avons à cœur l'Évangile, la diffusion de l'Évangile dans le privé ou en public, nous voyons que par son esprit, l'esprit du Seigneur, eh bien, le Seigneur coopère avec nous. Et nous voyons dans le verset 19 de Marc 16, c'est qu'il est dans le ciel. Après leur avoir parlé, il est dans le ciel, en haut dans le ciel, et est assis à la droite de Dieu. Il est assis, mais il coopère. C'est la deuxième activité céleste de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui dans le ciel. Dans l'évangile de Jean, nous lisons au chapitre 10 de l'évangile de Jean. À la fin du verset 4, à propos des brebis, les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Nous sommes bien d'accord que Jésus-Christ est notre berger, que nous sommes le troupeau de Dieu. Et nous savons par différents passages des Écritures que le bon berger, le souverain berger des brebis, eh bien, il prend soin de chacune de ses brebis. Et dans ce passage de verset 5 du chapitre 10 de Jean, nous voyons que le Seigneur, il fait entendre sa voix. Et si nous comprenons bien, le Seigneur, il est dans le ciel, assis à la droite de Dieu, mais de là-haut, il prend soin de chacune de ses brebis, et il nous est dit que ses brebis connaissent sa voix. C'est-à-dire, autour de nous, il peut avoir de multiples voix. La voix des étrangers nous est dit à ce verset 5. Mais le Seigneur, quand il nous parle, à travers différentes circonstances, ou dans l'assemblée, ou au sein de la famille, ou individuellement, eh bien, il prend soin de chacun de nous, mais il fait entendre sa voix. Nous pouvons entendre peut-être des milliers de voix, mais une brebis du Seigneur peut distinguer au milieu de ces milliers de voix la voix du bon berger qui nous parle. Et c'est une troisième activité du Seigneur dans le ciel. Il est notre bon berger, ce souverain berger. Eh bien, il fait entendre sa voix à chacun de nous, individuellement. Dans quelques situations que nous nous trouvions, dans les pires difficultés, si nous crions à lui, si nous regardons à lui pour être délivrés peut-être de circonstances particulièrement difficiles, eh bien, le Seigneur, eh bien, il va faire entendre sa voix. C'est la troisième activité que nous donne le Nouveau Testament sur l'activité du Seigneur aujourd'hui dans le ciel. La quatrième activité, nous la trouvons maintenant dans Jean 17, une nouvelle fois dans Jean 17, au verset 19. Dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, on a dit que c'était une prière sacerdotale que le Seigneur a présentée à son Père concernant tous les enfants de Dieu, toutes ses brebis. Et au verset 19, il dit « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Alors nous comprenons que le Seigneur, il est dans le ciel, encore, il est assis à la droite de Dieu, et comme il l'a exprimé à son Père dans cette prière de Jean 17, il dit « Je me sanctifie moi-même pour eux. » C'est-à-dire, il est à part dans le ciel afin d'intercéder pour nous, afin que nous nous consacrions à lui, que notre vie soit consacrée à Dieu et à sa personne. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, c'est une autre activité du Seigneur qui est dans le ciel. Il désire que ses brebis, son troupeau, soient mis à part pour lui, pour son Dieu, et que par la vérité, par la connaissance de la parole de Dieu, la vérité est cette efficacité, cette efficace sur nos cœurs et sur nos consciences, afin d'être véritablement un peuple acquis et à part pour lui. C'est la quatrième activité du Seigneur aujourd'hui dans le ciel. Dans la première épître de Jean, chapitre 2. Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Le juste, et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Nous avons une nouvelle activité céleste de notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel aujourd'hui. Et l'apôtre Jean écrit à ses enfants, afin que nous ne péchions pas, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ. Nous sommes certainement des enfants de Dieu, sauvés par grâce, mais il nous arrive bien sûr de faire des faux pas, des infidélités vis-à-vis de notre Seigneur et de notre Dieu et Père. Et nous voyons dans la première épître de Jean une nouvelle activité céleste du Seigneur. Il est notre avocat auprès du Père Jésus-Christ. Et un peu avant, nous voyons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Le péché ici, dans la première épître de Jean, est considéré comme un accident, comme quelque chose d'inhabituel. Et la volonté propre est aussi un péché, il ne faut pas l'oublier si dans nos vies nous ne faisons que notre propre volonté et que nous ne cherchons pas la volonté de Dieu ou la volonté du Seigneur afin qu'il nous éclaire, eh bien, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Et nous voyons encore cette nouvelle activité. Et le Seigneur, dans cette activité, il veut nous amener, comme il nous est dit au verset 9 du premier chapitre, à ce que nous confessions nos péchés afin de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dans l'Épître aux Hébreux, tout à l'heure, nous avons lu cette activité du souverain sacrificateur. Et on aurait pu lire aussi dans le chapitre 7, au verset 25, que le Seigneur dans le ciel est toujours vivant pour intercéder pour nous. C'est-à-dire ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Nous avons besoin de l'intercession de Jésus-Christ. Nous avons besoin de notre souverain sacrificateur qui sympathise à nos infirmités. Et il nous exhorte à nous approcher avec confiance du trône de la grâce afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. C'est encore une activité céleste de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement il sympathise à nos infirmités, mais il nous exhorte depuis le ciel à nous approcher du trône de la grâce quand nous avons besoin de trouver du secours au moment opportun. À propos du souverain sacrificateur, nous pourrions peut-être lire dans Exode chapitre 28 quelques caractères à travers l'exemple d'Aaron. On lira peut-être quelques extraits. Donc, Aaron était souverain sacrificateur et l'Éternel, Dieu, donne des instructions à Moïse concernant, dans ce chapitre 28 en particulier, les vêtements du sacrificateur. Et autant le peuple d'Israël avait besoin de la sacrificature pour nous approcher, pour s'approcher de Dieu, autant nous avons besoin, nous aussi, de la sacrificature de Christ dans le ciel, parce qu'il nous porte sur son cœur, nous allons peut-être le voir dans ce chapitre, et il intercède pour nous. Et nous voyons que, encore, je crois que insister sur cela, c'est que le Seigneur dans le ciel, il a ses multiples activités qui nous concernent. Il ne nous laisse pas sur la terre sans ressources. Et nous voyons à travers ces activités, ce sont autant de ressources qui sont à notre disposition, même si nous n'en sommes pas conscients. Ce sont des ressources donc qui sont utilisées par Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, pour le, notre pèlerinage sur la terre. Donc le premier point, notre Seigneur s'est offert sur la croix en sacrifice pour nos péchés. Maintenant, il intercède auprès de Dieu pour tous les croyants. Et nous savons aussi qu'il conduit la louange dans l'assemblée, et dans l'Ancien Testament, c'est l'encens qui est le symbole de la louange, hein, quand nous adorons notre Dieu et Père. Et le Seigneur Jésus, dans le ciel, il aime chacun des siens, ou tous les siens, et il déploie toute sa puissance et tout son amour en notre faveur. C'est ce que nous avons un peu aperçu dans le Nouveau Testament. Alors, nous voyons au chapitre 28 de l'Exode les instructions de l'Éternel à Moïse concernant Aaron, son frère, afin d'exercer la sacrificature devant lui, ainsi que ses fils. Verset 2, « Et tu feras de saints vêtements à Aaron, ton frère, pour gloire et pour ornement. » J'étais frappé ce matin parce que un frère, dans une prière, a parlé de la beauté de Jésus-Christ. Et ça m'a fait penser à Aaron, qui avait ses vêtements pour gloire et pour ornement. Est-ce que quand nous considérons les perfections morales du Seigneur Jésus qui est venu sur cette terre, est-ce que au fond, nous ne considérons pas toute la gloire et tout l'ornement qui était dans ses vêtements d'un point de vue moral? Et donc l'Éternel détaille les vêtements. Et au verset 5-6, il y avait d'abord l'éphod. L'éphod, c'était une partie, c'était un vêtement qui était en deux parties, une partie antérieure et une partie postérieure, qui était reliée par des épaulières. Et si nous faisons attention, nous verrons qu'il est parlé donc de l'éphod, de ce vêtement, et en particulier au verset 7, il nous est dit qu'il aura à ses deux bouts deux épaulières pour l'assemblée et il sera ainsi joint. C'est-à-dire que le vêtement était en deux parties, la partie antérieure et la partie postérieure, et il y avait deux épaulières sur l'éphod pour relier la partie antérieure et la partie postérieure. Et alors, au verset 9 de l'Exode, nous lisons « Et tu prendras deux pierres d'onyx et tu graveras sur elles les noms des fils d'Israël, six de leurs noms sur une pierre et les six noms restants sur la seconde pierre selon leur naissance. Tu graveras un ouvrage de lapidaire en gravure de cachet les deux pierres d'après les noms des fils d'Israël. » Et tu les feras enchâsser dans les deux chatons d'or, et tu mettras les deux pierres sur les épaulières de l'éphod, comme pierre de mémorial pour les fils d'Israël, et Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Nous voyons donc que le souverain sacrificateur avait ce vêtement, l'éphod, et sur ses deux épaules, il y avait donc ses épaulières avec des pierres d'onyx, et sur les pierres d'onyx, était gravé d'un côté les six noms des tribus d'Israël et sur l'autre épaulière les six autres noms des tribus d'Israël. Quelle est la signification pour nous? C'est une image de quoi? C'est-à-dire, c'est une image de ce que fait le souverain sacrificateur dans l'Épître aux Hébreux. Il nous porte sur ses épaules. Christ nous porte sur ses épaules. Et il a cette puissance dans le ciel pour nous porter. Et nous avons évoqué, je crois, dans la prière tout à l'heure, ce fait que nous sommes en pèlerinage sur cette terre avec nos faiblesses, avec sans doute des infidélités, des manquements, mais il ne faut pas oublier que Christ nous porte. Il nous porte sur ses épaules. Si nous sommes agréables dans le bien-aimé, si nous avons été acceptés devant Dieu par Jésus-Christ, eh bien, pendant cette traversée du désert, nous ne devons jamais oublier, et quel encouragement pour nos cœurs, que nous sommes portés par la puissance du Seigneur Jésus. Du ciel, il nous porte. Ensuite, au verset 15, après l'éphod, il nous est parlé du pectoral de jugement. C'est-à-dire, il y avait d'abord l'éphod, et puis il y avait en plus ce qu'on appelle ici le pectoral de jugement. C'est-à-dire, c'était un carré, il nous est dit, verset 16, il sera carré, double, sa longueur sera de nampan et sa largeur de nampan. Un nampan, c'est ça, hein, c'est une main. Et donc, ce pectoral de jugement était placé devant, sur le cœur du souverain sacrificateur. Et au verset 21, il nous est dit, « Les pierres seront selon les noms des fils d'Israël, 12 selon leurs noms, en gravure de cachet, chacune selon son nom, elles seront pour les 12 tribus. » Si le Seigneur nous porte sur ses épaules, eh bien, il nous porte aussi sur son cœur. Et si nous examinons en détail ce qui est dit sur le pectoral du jugement, nous voyons que ce pectoral était pratiquement fixe. Il ne pouvait pas bouger. C'était une impossibilité de le faire bouger. Et c'est quelque chose de précieux au cœur de savoir que nous sommes sur le cœur de Jésus-Christ dans le ciel, mais que s'il nous porte sur son cœur, rien ne peut nous ôter de cette position si précieuse d'être sur le cœur du Seigneur Jésus. Et donc, bien sûr, cela nous parle de l'amour de Jésus-Christ pour chacun de nous, puisque nous voyons qu'au verset 21, c'est tous les noms des tribus, des fils d'Israël, étaient écrits. Sur les épaules, les noms n'étaient pas écrits avec précision, il ne nous l'est pas dit, mais tandis que sur le cœur, chacun des noms des fils d'Israël était sur le cœur du souverain sacrificateur. Et si nous faisons la transposition avec le Nouveau Testament, eh bien, nous voyons que nous avons, que nous sommes sur le cœur de Jésus-Christ. Il y a une chose aussi précieuse à propos du pectoral de jugement avec les noms écrits. C'est-à-dire, si un Israélite regardait le pectoral du jugement, il pouvait voir écrit le nom de sa tribu, son nom sur le pectoral. Et donc, il y avait ce côté de l'homme, de cet Israélite qui pouvait dire, voilà, le souverain sacrificateur, il me porte sur son cœur. Mais il y a une partie invisible, c'est l'autre côté, c'est-à-dire la partie du pectoral qui est derrière et qui est vraiment contre le cœur du souverain sacrificateur. Et cette partie invisible que l'Israélite ne pouvait pas voir puisque c'était invisible à l'œil, ça nous parle de l'amour incomparable de Christ qui surpasse toute connaissance. D'un côté, si nous regardons, nous connaissons en partie, nous pouvons avoir une idée de l'amour de Christ qui nous concerne. Mais ce qui est précieux, c'est de savoir que de l'autre côté, dans cette partie invisible, eh bien, il nous est parlé du cœur de Christ avec cet amour qui surpasse toute connaissance. Donc le pectoral avec les noms des Israélites, des douze tribus, eh bien, parler, donc le nom c'était le pectoral de jugement. Donc cela évoque aussi que Dieu est amour et Dieu est lumière. Amour, puisque le souverain sacrificateur nous porte sur son cœur, mais c'était un pectoral de jugement. C'était pour rappeler à l'Israélite que Dieu aussi est lumière et que notre conduite doit être en rapport avec la connaissance que nous avons de Dieu et de notre Seigneur. Juste pour finir, dans Jean 19, verset 23, les soldats donc, quand ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais jetons-la au sort, à qui elle sera, afin que l'Écriture fût accomplie qui dit, ils ont partagé entre eux mes vêtements et ils ont jeté le sort sur ma robe. Les soldats donc firent ces choses. Nous avons parlé en partie des vêtements du souverain sacrificateur et nous aurions pu entrer encore dans plus de détails. Et dans tous ces détails, nous pouvons voir les gloires morales, les perfections de Jésus-Christ, la nature même de l'éphod était enfin de coton retors, de couleur bleue, il y avait de l'or, justice divine, tout dans les vêtements du souverain sacrificateur nous parle des beautés morales de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour terminer, nous voyons que dans l'évangile de Jean, il nous est parlé de la tunique du Seigneur qu'il a portée. Et il portait donc ce vêtement, et ce vêtement était en tout point remarquable. Et c'est un vêtement qui était unique, qui n'avait aucune division, aucun défaut. Et Dieu a veillé sur la robe de son Fils afin qu'elle ne soit pas déchirée. Et aucune puissance n'a pu porter atteinte à cette robe. Dieu l'a fait mettre de côté, elle n'a pas été partagée, elle n'a pas été déchirée. Et nous voyons que Dieu avait toujours la pensée de la sainteté et de la perfection de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et il a veillé même dans les détails de son vêtement à cette perfection de son Fils bien-aimé, en qui il trouvait ses délices. Parce que dans la parole de Dieu, le vêtement extérieur parle toujours de l'état moral, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, mais le vêtement extérieur nous parle de celui qui le porte, de l'état moral de celui qui le porte. Et la tunique du Seigneur était sans couture, tissé tout d'une pièce depuis le haut jusqu'en bas. Et nous voyons qu'il n'y avait aucune division, aucun défaut. Et le Seigneur est souligné dans cette description, les beautés morales du Seigneur, toutes ses perfections. Simplement, nous dire que le Seigneur Jésus a de multiples activités dans le ciel, aujourd'hui, pour chacun de nous. Il nous porte sur ses épaules, il nous porte sur son cœur. Nous avons une conscience limitée de son amour vis-à-vis de chacun de nous. Et nous connaissons en partie, comme dit la parole de Dieu, mais derrière le pectoral de jugement, eh bien, le cœur de souverain sacrificateur parlait aussi de l'amour de Christ envers nous. Encore peut-être un verset, j'y pense tout d'un coup, dans le Cantique des Cantiques, en rapport avec le même sujet. Chapitre 8, verset 6, le début. Ce sont des versets un peu plus loin que nous lisons souvent. Et alors la bien-aimée parle à son bien-aimé. Et elle lui dit, mets-moi comme un cachet sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras. Dans Exode 28, nous voyons donc que nous sommes sur le cœur de Christ. Mais là, la bien-aimée demande à son bien-aimé, mais mets-moi comme un cachet sur ton cœur. Elle a le désir d'être toujours sur le cœur de Christ, de son bien-aimé. Et comme un cachet sur ton bras, et cela évoque aussi les épaules du bien-aimé, elle désirait être toujours portée dans les bras de son bien-aimé. Mets-moi comme un cachet sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras. Est-ce que nous avons ce désir d'être toujours sur le cœur du Seigneur? Est-ce que nous avons ce désir, comme la bien-aimée, d'être comme un cachet sur son moi, sur ses épaules?
Sans prolonger, je veux juste lire cette scène de Jean 13 que nous avons chantée et ajouter juste une pensée. Nous avons dit « Pour toute souillure, c'est toi qui te saint, lavant d'eau pure les pieds de tes saints. » Dans Jean 13, au verset 3, Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu, se lève du souper et met de côté ses vêtements, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il verse de l'eau dans le bassin et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre et celui-ci lui dit, « Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Jésus répondit et lui dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. » Juste une pensée. Notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel fait aussi ce service. Et nous voyons cela parce qu'il est dit, sachant que le Père lui avait mis toute chose entre les mains et qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu. Et dans le cœur du Seigneur à ce moment, il désirait encore montrer concrètement par un exemple pratique, visuel, à ses disciples, ce qu'il allait faire pour l'éternité, ce qu'il allait faire dans le ciel pour eux, quand ils seront encore sur la terre. C'est une chose merveilleuse qu'il ait voulu encore faire cela avant la croix, alors qu'il avait ses heures devant lui et il n'a pas pensé à lui-même. C'était la chose pour lui, il fallait qu'il montre à ses disciples ce qu'il allait faire. Encore un service. Et ce service, qu'est-ce que c'est ? C'est de laver les pieds. Et il le fait encore pour nous dans le ciel aujourd'hui. C'est de, par sa parole, par les versets de la parole qui fait passer dans notre cœur ou que nous lisons la semaine, c'est de nous purifier et de nous séparer du monde et de nous enlever toutes les saletés qui auraient pu s'accrocher à nos pieds, à notre marche. C'est quelque chose de merveilleux d'unique pour notre cœur. C'est le Seigneur Jésus qui fait cela. Et dernière chose, tous les services que nous avons vus, nous voyons que nous n'avons pas besoin de les demander. Le Seigneur le fait. Nous n'avons pas besoin de le demander, de nous laver les pieds, de nous porter, de nous aimer, de nous purifier. Il le fait. Et notre foi s'en saisit. Mais par contre, il faut que nous en soyons conscients et que nous ne l'empêchions pas de le faire. Et dans cet exemple, Simon Pierre, il ne voulait pas, au début, il ne voulait pas que le Seigneur lui lave les pieds. Et nous, c'est pareil dans notre vie, nous pouvons, pour beaucoup de raisons, ne pas vouloir cela, ne pas vouloir que le Seigneur nous fasse cela. Et pourtant, il veut le faire. Il veut nous porter, il veut nous aider, il veut nous changer, il veut nous purifier. C'était pour rappeler que nous avons besoin de laisser le Seigneur faire dans notre cœur, ne pas nous mettre dans son chemin, le laisser avoir ce service pour nous. Et je crois qu'il est dit quelque part, je n'ai pas retrouvé, qu'il nous servira à toujours également.
Du 68. 68.